Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.FM or live from our studio. Poco Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Popo Richaud, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voyage.
À travers la cosa, dingue
dingue.
Écoutez la planète chanter.
Vous écoutez Popo Richaud sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études engagées à campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popo Richaud, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Chaud en mode vacances, Francophonie sans frontières, vous êtes bien en direct, Hot House Studio, Toronto. Un gros bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent en Haïti ce matin, à Saint-Martin, mais aussi notre meilleur ami de toujours, Marceline, en direct de Miami Beach. Sur réalisé aujourd'hui en partenariat avec plusieurs radios partenaires en Haïti, à Miami justement, à New York, mais aussi Radio France Internationale et le journal Express de Toronto. L'ingénieur du son, DJ Devera, production et animation, Eric Tader, sur hashtag Popourri Show. CUT 89,5 FM, le son de votre ville. Tout un monde à découvrir. Mois de mars 2018, c'est le mois de la francophonie. C'est aussi le renouvellement de votre partenariat avec la radio. Soyez des nôtres, inscrivez-vous immédiatement à popourri@cut.fm. CUT 89,5 FM, le son de votre ville. Tout un monde à découvrir. CUT FM, Popourri Show, toute la diversité du monde sur votre fréquence.
Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
On a dit que l'Égyptien ne connaissait pas leurs origines, je ne suis pas d'accord. Et voici ma raison. L'Égyptien connaissait parfaitement leurs origines et ils l'ont exprimé dans leur langue d'une façon explicite. Alors, Kem, ça veut dire noir en égyptien ancien. Et la formation d'un collectif en égyptien ancien consiste à mettre un T au singulier, à l'adjectif ou bien au substantif. Et c'est de cette manière qu'on a formé Kem, qui veut dire le pays noir. Et c'est là que vous faites la confusion. Hein? Parce que Kem, ça veut dire la noire, étymologiquement. Ça veut dire la noire, absolument. Kem, ça veut dire noir, c'est l'adjectif. Et Kem, c'est la noire. Mais les égyptologues avaient l'habitude de dire, puisque le déterminatif qui suit, c'est le déterminatif du pays, alors noir, la noire doit s'appliquer à la terre et non pas aux hommes. Mais ils ne discutaient pas pour savoir si Kemte étymologiquement signifie noir ou pas. Hein? Donc, Kemte signifie étymologiquement noir, c'est le terme le plus fort qui existe en égyptien ancien pour dire noir. Si vous en connaissez un autre, d'ailleurs, dites-le moi. Moi, je n'en connais pas un autre.
Cette fois-ci, grâce à l'UNESCO qui a réuni les plus grands chercheurs, les plus éminents scientifiques, les anthropologues et égyptologues européens et américains, Cheikhanta Diop peut enfin confronter les résultats de ses recherches, de sa théorie sur l'origine unique de l'homme sur l'Égypte nègre à celle de ses homologues des autres continents. Ce colloque du Caire est l'opportunité qu'il attendait pour en finir avec la critique facile, pour enfin s'inscrire dans une démarche de l'écriture de l'histoire universelle qui soit moins orientée, plus basée sur des faits. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Cheikhanta Diop. Du 28 janvier au 3 février 1974, le docteur Cheikhanta Diop et son disciple, le Congolais Théophile Obenga, vont en s'appuyant sur l'anthropologie, l'histoire, la linguistique, la sociologie, la physique et la chimie, essayer de démontrer leur théorie sur l'histoire universelle, sur le rôle de l'Africain dans cette histoire. Il faut en finir avec les conceptions, avec les thèses qui faisaient commencer son histoire avec l'arrivée de l'homme blanc. La démonstration de l'Égypte négroïde va s'appuyer également sur les textes bibliques.
La Bible, le témoignage de la Bible doit être pris en considération. Et la Bible nous dit, nous apprend de façon très nette que l'Égypte était habitée et l'Égypte était une nation noire. Prenez la Genèse, prenez l'Exode. La Genèse dit justement que Cam, n'est-ce pas, les descendants de Cam, ce sont Israël, c'est-à-dire l'Égypte, Kouch, l'Éthiopie, Canaan, Put et Avila, n'est-ce pas, Saba, qui sont en Arabie, et Ludim, qui serait, n'est-ce pas, en Libye, avant l'arrivée du Libyen, le Coderme. Parce qu'il y a eu dans cette région-là, ce qui induit souvent en erreur, c'est qu'il y a eu un Libyen noir qui a précédé le Libyen blanc, qui n'est arrivé qu'à l'époque où les peuples de la mer ont commencé à envahir l'Égypte sous la 19e dynastie. Ensuite, le témoignage de la tradition arabe et musulmane. Il est certain que pour tous les savants arabes qui ont écrit pour toute la tradition musulmane, l'Égyptien ancien était des Noirs. Et même l'Arabie sabéenne, anti-islamique, était habitée par le peuple de Saba, qui aussi, du point de vue même du Coran, est considéré comme un peuple africain noir.
Le but n'est pas de magnifier le nègre ou l'Égypte, mais de montrer que l'humanité est une, avec les mêmes capacités intellectuelles.
Quelle que soit son apparence, il peut y avoir des situations de fortune, des changements dans l'évolution, dans les conditions de vie, mais les capacités de cette humanité sont les mêmes, et l'anatomie du cerveau a prouvé ceci. On n'a jamais trouvé, depuis qu'on le cherche, des différences anatomiques au niveau de la structure du cerveau, et en particulier au niveau du lobe antérieur du cerveau, qui permet surtout de distinguer l'homme de Néandertal de l'homo sapiens sapiens. On a cherché des différences significatives qui soient susceptibles d'être interprétées en termes de hiérarchisation, et on n'a jamais pu en trouver.
Au bout d'une semaine de colloque, Cheikh Anta Diop invite les participants, tous ces éminents égyptologues et scientifiques, à une réorientation de l'étude de l'histoire du monde qui doit s'accompagner d'un dialogue franc et moins condescendant avec leurs homologues africains.
Toutes les races ont les mêmes capacités et toutes les races ont la même origine. Ceci aussi doit amener l'humanité à se mettre dans des dispositions plus favorables pour la fraternisation. Vous voyez, il y avait deux théories qui s'affrontaient sur le terrain de l'anthropologie physique. La théorie polycentrique, qui supposait que certaines conditions étant réunies, il devait y avoir un homme blanc, un homme noir et un homme jaune, et que ces races ont trois origines différentes et vont converger pour donner l'humanité actuelle, la famille humaine. Donc, du fait que cette famille humaine a trois origines indépendantes, la hiérarchisation raciale est possible. Voilà la philosophie qui sous-tend la théorie polycentrique. Il ne faut pas la perdre de vue. Et c'est pour ça que cette théorie est une théorie conservatrice également. Et elle a été défendue âprement, mais aujourd'hui, la vérité est restée à la science, et l'on sait que cette théorie a vécu, l'humanité a une seule origine. Ceci doit nous permettre de nous rapprocher les uns des autres au lieu de nous éloigner et de nous haïr les uns les autres.
C'est dans ce cadre que s'écrit par la suite l'Histoire générale de l'Afrique, éditée par l'UNESCO. Mais cela ne signifie absolument pas que le chercheur sénégalais ait convaincu et converti tous ces spécialistes et experts de l'histoire universelle et de l'Égypte en particulier à sa théorie. Il est toujours au moins aussi critiqué par eux, mais il préfère en rire. Il a eu l'occasion de leur présenter sa thèse. C'est essentiel. Cheikh Anta Diop rend compte du rapport de ce colloque du Caire.
Maintenant, à propos du colloque du Caire, ça a été un combat à armes courtoises, à la loi royale, mais tout de même qui a permis de clarifier un certain nombre de points. Je vous lis quelques dépositions. À propos de la culture égyptienne, le professeur Velcouter rappelle que pour lui, l'Égypte est africaine dans son écriture, dans sa culture et dans sa manière de penser. Le professeur Leclan est devenu académicien depuis. Il est le plus jeune membre de l'Institut. Donc, le professeur Leclan, lui, reconnaît ce même caractère africain à la civilisation égyptienne dans son tempérament et dans sa manière de penser. Si c'est la culture qui était en jeu, donc la cause est entendue. Il s'agissait de trouver la culture antérieure à laquelle il était légitime pour les Africains de rattacher leur culture actuelle. Cette question a été tranchée par les débats du Caire. En tout cas, voilà les dépositions de la bouche même de nos interlocuteurs, de ce qui avait été désigné pour discuter la question à venir. Le professeur Delis a rédigé ce rapport
avec une objectivité digne d'éloge, il faut le dire. Mais dites-vous que ce rapport a été discuté point par point. Ce que je vous dis ici, c'est ce qui a été discuté en assemblée plénière du colloque et retenu comme le minimum sur lequel on était d'accord. Puisqu'il y a beaucoup de points de désaccord et vous lirez la totalité du rapport. Je vous lis seulement quelques points saillants. Il faudra lire l'ensemble pour avoir toutes les nuances. Alors, à propos de la linguistique, sur ce point, à la différence des précédents, l'accord entre les participants s'est révélé large. Les éléments du rapport du professeur Diop et le rapport du professeur Obenga ont été considérés comme très constructifs. Et le rapport continue. Contre l'affirmation du professeur Diop que l'égyptien n'est pas une langue sémitique, le professeur Abdallah rappelle que l'opinion inverse a été souvent exprimée. Et voici la déposition du professeur Sonneron, qui est le chef de file de l'égyptologie française, au bout de toutes ces discussions et après toutes les preuves que nous avions fournies au tableau. Je rappelle également, pour que vous compreniez bien le sens des phrases que je vais vous lire. Parce que on avait l'habitude, vous savez, l'expérience sert à quelque chose, on avait l'habitude toujours dans les discussions de salon de dire que oh, c'est un assemblage de mots, que c'est des rencontres hasardeuses, etc., etc. Alors donc tout ceci pouvait être jugé autrement. Alors voilà donc le professeur Sonneron. Plus largement, le professeur Sonneron souligne l'intérêt de la méthode proposée par le professeur Obenga après le professeur Diop. L'égyptien est une langue stable durant au moins 4500 ans. L'Égypte étant placée au point de convergence d'influences extérieures, il est normal que les emprunts aient été faits à des langues étrangères. Mais il s'agit de quelques centaines de racines sémitiques par rapport à plusieurs milliers de mots. L'Égyptien ne peut être isolé de son contexte africain. Et le sémitique ne rend pas compte de sa naissance. Il est donc légitime de lui trouver des parents ou des cousins en Afrique. C'est le professeur Sonneron. Vous voyez donc que l'égyptologie a pris le virage de la façon la plus officielle. Et voici la conclusion générale du rapport. La très minutieuse préparation des interventions des professeurs Cheikh Diop et Obenga. Je lui suivais bien parce que les phrases de ce rapport sont toujours carabinées. Alors si vous ne suivez pas, le sens vous échappe. Alors, le texte dit ceci. La très minutieuse préparation des interventions des professeurs Cheikh Diop et Obenga n'a pas eu, malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, une contrepartie toujours égale. Il s'en est suivi un réel déséquilibre dans les discussions.
La polémique est loin d'être close sur la question. Mais un virage est amorcé sur l'histoire de l'Égypte ancienne avec ce colloque. Et même si le docteur Cheikh Anta Diop ironise sur les termes et les conclusions de ce rapport, il sait que la bataille ne fait que commencer, qu'il va devoir poursuivre les recherches pour rétablir la vérité.
Et après, Ça pose la théorie de la régression. Pourquoi nous avons été les plus avancés, maintenant nous sommes en retard? Nous devons nous poser cette question. Il faut construire une théorie de la régression.
Cheikh Anta Diop n'est pas forcément soutenu ou compris par les siens, par certains des intellectuels africains, même qui se demandent comment Amadi Dien, un de ses amis du quartier latin, mais ami critique que nous venons d'écouter, l'utilité, le bien fondé de ses recherches.
Dans la période actuelle, il faut que nous fassions des recherches. Nous faisons des recherches. Et au lieu de vivre du passé, glorieux. Et tout peuple qui valorise exagérément sa civilisation est un peuple en retard. C'est les peuples qui connaissent leurs faiblesses qui avancent. Parce qu'ils ont le sens de la perfection. C'est-à-dire d'avoir des défauts et de faire. Ça, je crois que le Japon nous donne un exemple.
Le désir d'évolution.
D'évolution. Tandis que chez nous, non, nous sommes toujours les gens parfaits.
Docteur Yor aussi, un de ses disciples, des collaborateurs, des proches de Cheikh Anta Diop.
Cheikh, quand il a commencé par Nation Nègre et Culture, il a fait des études sur le Sahara, sur le désert, comment reverdir il a fait des études sur les chutes du Zambèze, comment faire pour électrifier une bonne partie de l'Afrique. Cheikh, c'est un panafricaniste convaincu, cher, mais il est tourné vers l'avenir, mais il dit, il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. C'est tout. D'ailleurs, il le dit très bien. Ne pensez pas que moi, ces choses-là, ces découvertes, toutes ces découvertes, quand je les ai faites, je veux m'en servir pour glorifier une race au détriment de l'autre. D'autant plus que pour moi, il n'y a qu'une seule race. Cette race-là a évolué, les gens ne l'acceptent pas, mais en fait, tôt ou tard, ils l'accepteront. Il y a une seule race qui s'est diversifiée par la suite. Et suivant les continents, les choses vont évoluer. Écoutez, prenez les Coréens. Au départ, le peuple coréen, c'est le peuple coréen qui a donné le peuple nippon, les Japonais. Mais les Japonais ont colonisé la Corée. Ils en avaient fait presque des esclaves. Avec leur bataillon de femmes qui recrutaient à l'âge de 18 ans pour ne les libérer qu'à l'âge de 23 ans. Pour le soldat, pour le plaisir soi-disant d'un soldat. Mais après la 39-45, quand la Corée s'est libérée, enfin quand les Américains ont libéré la Corée. Mais actuellement, sur le plan industriel, sur le plan scientifique, sur le plan des recherches, la Corée, joue des coudes.
La réponse du docteur Cheikh Anta Diop à l'utilité de ses travaux sur l'histoire de l'Égypte et de sa période glorieuse est sans ambiguïté.
La civilisation égyptienne avait des tares, elle avait des faiblesses. Je crois qu'il faut qu'on évite. Je n'ai pas cherché à déifier l'Égypte, j'ai cherché seulement à connaître le patrimoine culturel de l'Afrique pour que les Africains puissent bâtir un corps de sciences humaines. Imaginez un peu l'Occident coupé du passé gréco-latin. J'ai défié n'importe quel Européen de bâtir un corps de sciences humaines. Il ne le pourrait pas. Si l'Europe a pu bâtir un corps de sciences humaines, c'est parce qu'il y a ce va-et-vient constant vers le passé gréco-latin. Donc, l'Afrique coupée de son vrai passé, l'Afrique coupée de ses véritables antiquités, ne pourrait pas bâtir un corps de sciences humaines parce qu'il lui manquerait ce référentiel culturel, sans quoi il est impossible de bâtir un corps de sciences humaines. Alors, c'est le seul intérêt culturel que cela présente. Vous voyez, nous pouvons faire de la diachronie parce que nous avons pu, de cette manière, introduire la dimension historique. Donc, nous pouvons remonter dans le temps et voir quelles sont les formes antérieures qui existait avant les formes linguistiques actuelles. Tant qu'on s'était condamné à rester dans le présent, on pouvait faire tout simplement de la linguistique structurale, une coupe transversale dans le temps, mais on ne pouvait pas faire cette remontée dans le temps pour analyser les formes anciennes qui ont disparu. Voilà le seul intérêt scientifique, enfin un des intérêts scientifiques que présentent ces travaux. Cela est vrai aussi dans le domaine des institutions sociales, c'est vrai pour tout ce qui est la connaissance de soi. Je crois que c'est de cette manière que l'on peut être en possession de son véritable patrimoine culturel et qu'on peut, dans la plénitude, aller vers les autres et leur apporter ce qu'on a à leur apporter.
Si cette confrontation a donné l'occasion à Cheikh Anta Diop de présenter le résultat de ses recherches à ses confrères des autres continents, il n'y en aura malheureusement pas une autre. Mais pour lui, ce n'est pas le plus important. Désormais, il va sillonner le continent de part en part pour confronter, pour partager son travail avec celui des autres scientifiques. C'est le début des colloques qui vont l'amener un peu partout en Afrique. Et puis le scientifique qui s'intéresse également au développement du continent, qui rêve d'industrialisation de l'Afrique, s'intéresse à nouveau à la politique en cette seconde moitié de la décennie 70. Mais le président du pôle Sédar Senghor le laissera-t-il faire cette fois-ci? Qu'apportera-t-il de nouveau dans ce domaine pour séduire ses compatriotes sénégalais? Rendez-vous dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur RFI, pour la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale chez Kanta Diop. Mais en attendant, juste après la réclame, le journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Moi je suis allé à l'école et l'on nous disait que nous étions des étrangers en Afrique. Nous n'habitions pas l'Afrique, nous sommes venus par l'Océanie. Nous étions des occupants noirs comme le blanc est un occupant blanc. Et alors c'est à l'occupant le plus fort qui déracine l'autre. Que le vrai indigène de l'Afrique c'était le pygmée. Le noir est venu avant-hier, le blanc est venu hier, et puis c'est tout. Voilà comment on nous enseignait l'histoire. Et au-delà de 4 siècles, c'était la nuit noire, l'histoire africaine était suspendue en l'air. Il est évident que ce dogme, je ne pouvais pas l'assimiler. Et ce qui m'intéressait dans ma démarche, c'était donc retrouver vraiment, par la documentation, remonter le fil conducteur qui nous relie à nos ancêtres les plus lointains. C'était tout.
Et c'est ce qui a motivé son engagement pour une recherche et une écriture objective de l'histoire universelle en général et africaine en particulier. C'est pour rétablir la vérité historique en s'appuyant à la fois sur les sciences exactes, mais également sur l'anthropologie, la sociologie et la linguistique, que Cheikh Anta Diop va, dès la décennie 50, se lancer dans la recherche.
C'est le hasard de l'évolution qui a voulu que l'homme ait pris naissance en Afrique, donc l'homme était d'abord noir. Et cet homme est l'ancêtre de toutes les autres races.
Suite de notre série d'archives d'Afrique, spéciale chez Kanta Diop.
À mon avis, le peuple noir a vécu comme en grappe, en quelque sorte, dans la vallée du Nil, avant de se disperser par pulsations successives, n'est-ce pas, à travers le temps. De sorte que les influences sont venues de la vallée du Nil, dans l'Antiquité, autour de la vallée du Nil, autour d'une fraction de nègres qui, hasard des déplacements, s'étaient engagés dans cette vallée et qui avaient accédé à la civilisation. Autour de cette fraction-là, vivaient aussi des nègres qui n'avaient pas encore connu l'humanité, pour employer même l'expression de Diodore, qui par conséquent, n'est-ce pas, étaient encore absolument à l'âge ethnographique, mais il n'en demeure pas moins que ces deux fractions appartenaient à la même ethnie.
Le colloque du Caire, organisé par l'UNESCO, a enfin offert l'occasion tant attendue par Cheikh Anta Diop de confronter les résultats de ses recherches à ceux de ses homologues des autres continents. Il a permis à lui et à son disciple Théophile Obenga de présenter aux yeux du monde leur théorie de l'Égypte nègre, essence du miracle grec. Et même si certains n'ont pas été convaincus, il a marqué les esprits. Il a fait bouger les lignes. Aujourd'hui, l'idée d'une Afrique totalement actrice comme les autres races de l'histoire universelle ne suscite plus de moqueries. Si certains commencent à nuancer le peuplement exclusivement négroïde de l'Égypte ancienne et mettent surtout en exergue le métissage des populations autour du bassin méditerranéen, quelques-uns commencent à y croire. Certains jusque-là sceptiques, hermétiques, évoquent désormais l'unicité des races.
Il fallait s'attendre à une réaction idéologique et l'anthropologie physique occidentale n'a pas manqué de réagir. Vous savez qu'en s'appuyant sur la génétique moderne et en s'appuyant sur la biologie moléculaire, l'anthropologie physique vient de décréter qu'il n'y a plus de race, qu'il n'y a que des populations. La notion de race n'existe plus du point de vue de l'anthropologie physique. Ces deux positions ne sont pas consistantes et elles sont contradictoires. Parce que la même anthropologie physique qui nous dit qu'il n'y a plus que des populations et qui va utiliser l'analyse linéaire, donc le calcul matriciel, qui va utiliser tout un appareil mathématique, de quoi impressionner le profane, hein, pour en imposer cette anthropologie physique, donc, c'est la même qui va nous dire quand même que l'ennemi falciforme n'arrive qu'à des nègres, qu'à des noirs. Or, de deux choses l'une, ou bien la race n'existe plus et qu'il n'y a que des populations, à ce moment-là, on ne sait plus ce que c'est que la notion de race. Mais l'anthropologie physique n'hésite pas, lorsqu'il s'agit de la transmission de tares héréditaires, de redécouvrir la notion de race et de l'utiliser. Vous voyez ? L'anthropologie physique croit toujours que... Elle aura toujours un tour dans son sac pour tourmenter un Africain.
Pour Cheikh Anta Diop, le travail ne fait donc que commencer. Il faut poursuivre cette mission. Il ne s'enferme pas dans son bureau pour savourer le succès relatif de cette première et unique rencontre. Il s'agit pour lui, désormais, de parcourir le monde en général et l'Afrique en particulier pour confronter ses idées avec ses pairs, mais également pour les vulgariser.
Je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle qui, libéré, va jusqu'au pas de la porte et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligentsia africaine dans son ensemble. Parce que, en dehors de quelques questions, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Quand est-ce que les Blancs vous reconnaîtront-ils? Parce que la vérité sonne blanche, c'est cela. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadé que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle sonne blanche. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Et ce sont justement les Blancs qui vont nous y aider. Moi, si je n'étais pas intimement persuadé de l'égalité des races, si je n'étais pas intimement persuadé de la capacité de chaque race de mener sa destinée intellectuelle et culturelle, je serais déçu. Que ferions-nous dans le monde ? S'il y avait réellement cette hiérarchisation intellectuelle, mais il faudrait s'attendre à une disparition d'une manière ou d'une autre. Parce que le conflit, il est partout, il est à tous les niveaux, il est dans tous ces débats, il est jusque dans nos relations internationales les plus feutrées. Nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces.
CUT 89,5 FM, tout un monde à découvrir. Et à ne pas rater, nous aurons bien sûr le mois de l'histoire des Noirs, au mois de février. Si cela vous intéresse, vous nous envoyez un message. Ou encore le mois de la francophonie, mois de mars 2018. C'est aussi le renouvellement de votre partenariat avec la radio. Soyez les nôtres, inscrivez-vous immédiatement à popori@cut.fm. CUT 89,5 FM 2018, tout un monde à découvrir. Popourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence.
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. CUT 89,5 FM, le son de votre ville. Tout un monde à découvrir. Mois de mars 2018, c'est le mois de la francophonie. C'est aussi le renouvellement de votre partenariat avec la radio. Soyez des nôtres, inscrivez-vous immédiatement à popourri@cut.fm. CUT 89,5 FM, le son de votre ville. Tout un monde à découvrir. CUT FM, Popourri Show, toute la diversité du monde sur votre fréquence.
Mémoire d'un continent.
Elikiam Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Attention, la jeune garde entre en scène. La jeune garde, ce sont de jeunes historiens, spécialistes des sciences sociales. Ils ont la tête évidemment bien pleine, mais aussi très bien faite. Et ils se préoccupent depuis un certain nombre d'années de s'asseoir sur l'héritage des générations passées, qui ont beaucoup travaillé, nous le savons, pour relancer l'histoire de l'Afrique sur des terrains solides, avec des faits indiscutables et avec des interprétations qui place l'Afrique au centre de sa propre histoire et qui ne se contente pas des événements, des rencontres, des péripéties extérieures au continent qui deviendraient les facteurs décisifs de son évolution. Ces jeunes travaillent beaucoup sur l'histoire ancienne, on le sait, dans le sillage de Cheikanta Diop et de quelques autres. Ils travaillent beaucoup également sur la période coloniale, mais il commence à travailler de plus en plus sur des durées un peu plus longues, sur des durées d'un siècle, un siècle et demi, pour essayer de comprendre le présent à partir de ces durées longues et pour pouvoir aussi se positionner par rapport à l'avenir désirable et l'avenir souhaitable, plus heureux qu'hier, l'avenir du continent africain. Je rencontre l'un de ces jeunes gens aujourd'hui, c'est un garçon, Junior Kabwika, bonjour.
Bonjour professeur Elikiam Bokolo.
Vous êtes jeune chercheur, vous êtes dans la trentaine, vous préparez une thèse de doctorat et chose significative, en amont de votre thèse, vous avez écrit un livre que vous venez de publier, ce livre sous le thème, le sous-titre « De la colonisation au néocolonialisme » et le titre est beaucoup plus modéré, je dirais, « Portée historico-politique de l'indépendance en République démocratique du Congo ». En sachant que l'histoire récente coloniale, post-coloniale et contemporaine de la République démocratique du Congo est assez, une sorte de résumé très ramassé, très dense de ce qu'est finalement l'ensemble de l'histoire du continent africain. Vous êtes de formation plutôt politologue. Vous travaillez, votre thèse est de sciences politiques, mais on sait que entre la science politique et l'histoire, il y a plus qu'un cousinage, ce sont des disciplines sœurs et dans beaucoup de cas, on voit des chercheurs passer de l'un à l'autre. Par exemple, John Huntington, dont le livre a fait beaucoup de bruit il y a quelques années sur le thème du choc des civilisations, eh bien c'est un politologue qui s'est occupé un peu d'histoire, un peu discutable selon nous, et qui s'est occupé en même temps du présent et du futur. Donc votre livre, un petit livre très dense, très ramassé, très personnel, est donc une sorte de réinterprétation théorique et factuelle de l'histoire de l'Afrique centrale, de la colonisation au néocolonialisme. D'abord, pourquoi ce livre très général avant votre thèse, dont nous parlerons peut-être dans un futur proche, qui est beaucoup plus ramassé?
Ce livre que nous avons publié, intitulé « Portée historico-politique de l'indépendance en République du Congo », est une sorte, comme vous avez dit, d'un ramassé beaucoup plus général. Ici, nous partons de la problématique selon laquelle et que nous devons arriver à mesure de vivre réellement notre indépendance. Parce que comme à la suite de plusieurs chercheurs, notamment George Zongo Lantalaja, qui déjà avait présenter les problèmes du Congo comme une problématique beaucoup plus centrale, il faudra partir à partir du rêve d'hier et du statut d'aujourd'hui, faire de l'indépendance une réalité. Alors, cet ouvrage est à point nommé, où aujourd'hui, de plus en plus, nous avons certainement à accéder à l'indépendance, laquelle indépendance aujourd'hui, sur le plan concret, ne reste qu'un leurre. Ce leurre-là, c'est après que cette indépendance sur le plan formel ait été acquise, nous constatons de plus en plus et que nous avons continué à une sorte de la domination-exploitation. Le sous-titre de l'ouvrage est intitulé « De la colonisation au néocolonialisme ». Nous savons très bien que la colonisation n'est qu'une sorte de la domination d'un peuple considéré supérieur face à un autre. Mais cependant, la nette différence ici, si à partir de la colonisation il s'agissait d'une domination au surplace, cela veut dire avec un peuple supérieur et blanc bien entendu, à l'occurrence pour le cas du Congo belge, il y avait une sorte de la domination au surplace où tous les droits étaient retirés à ces peuples autochtones. Mais aujourd'hui, après avoir acquis cette souveraineté, indépendance soit-elle, entre guillemets, nous assistons de plus en plus que cette forme de la colonisation n'a qu'à changer de forme. Et c'est comme ça qu'à chaque instant de l'histoire, tous les prétextes ont été avancés. Si hier, pendant la traite négrière, l'esclavagisme et tant d'autres, il s'agissait du prétexte de l'évangélisation et de la civilisation, lorsque l'on accède à l'indépendance, un jeune État, un nouvel État, il fallait maintenant passer par le prétexte de la coopération par le biais de tous les systèmes onusiens. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle donne de la colonisation, avec ce nouvel antigel que nous parlerons plus tard, comme vous avez dit, dans le cadre de notre thèse de doctorat, de la mondialisation. Cette mondialisation est comprise ici comme une sorte beaucoup plus continuelle de la colonisation d'hier, mais aujourd'hui nous assistons à une domination-exploitation d'un peuple au travers du territoire étranger. Si hier, le système léopoldien, et plus tard, l'État belge avait dominé au surplace avec des étrangers blancs au Congo, mettant en place tous les systèmes de la domination, aujourd'hui, cela s'est fait via certains comparses. C'est là que cet ouvrage a toute son importance où nous interpellons l'intelligentsia locale. Laquelle intelligentsia, après avoir entretenu tous les systèmes et sous la bonne coupe étrangère, nous n'avons qu'amené ce pays à son état plus que bébé.
Mais alors, si vous partez du début, comment vous interprétez donc ce fait très paradoxal de l'histoire de l'Afrique centrale, où c'est un homme, le roi des Belges, avec ses amis, avec des financiers, des banques, des entreprises belges, anglaises et quelques autres, arrivent à dominer ce pays? Est-ce que pour vous, la domination économique et financière, est-ce que c'est ça le noyau dur du système colonial en Afrique centrale, au Congo, mais aussi probablement en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest, française et anglaise? Est-ce que c'est ça le vrai noyau de la colonisation? Parce qu'on peut dire que les banques du 19e siècle, les industries, la circulation des matières premières, c'est en quelque sorte l'annonce de ce que nous appelons aujourd'hui la mondialisation.
Comme nous avions dit, la mondialisation aujourd'hui se présente sous une nouvelle forme de la colonisation, d'où le néocolonialisme. Si hier la colonisation au travers de ses puissants moyens, qui avaient utilisé notamment les entreprises, les églises et l'État lui-même, avait mis en place un système de la domination où toutes les choses étaient faites à son gré. Et lorsque nous accédons à l'indépendance, évidemment, la Belgique ou les Belges en général n'avaient pas l'idée, n'est-ce pas, de l'émancipation du peuple. Rappelez-vous qu'à une certaine époque, on disait « pas de politique, pas d'ennui ». Donc, on avait, en fait, retiré toutes les possibilités d'initiative à ces peuples. Mais voilà, lorsque l'on accède à l'indépendance, avec toutes les vagues que nous avons subies après, évidemment, cette indépendance, nous continuons à assister à ce qu'est la domination continue. Laquelle domination continue, dans quel sens? Dans le sens où Nous sommes devenus un pays, ou bien nous sommes un pays qui presque ne produit rien. Peut-être presque c'est un pays modéré qui ne produit rien. Et au regard de cette non-production, ça met l'État à un statut bébé, lequel le statut bébé le met en face d'être demandeur de tout. Rappelez-vous du système paternaliste où on avait réduit ces peuples autochtones congolais à l'époque à un bébé dépendant du bon et vouloir des étrangers. Et ce même système aujourd'hui continue, qui malheureusement, avec la complicité de l'intelligence locale. C'est comme ça que notre ouvrage en général est un ouvrage interpellateur. Interpellateur par rapport à l'héritage que nous avons, lequel héritage semble être pas fameux. Et alors là, il sera peut-être beaucoup plus intéressant d'embrasser les idées des autres en disant que le mal du Congolais de plus en plus devient un mal congénital. Et c'est par rapport à ça qu'il faudra mettre en place tous les systèmes forts avec un système efficace et efficient dans la gestion de la chose publique afin de vivre réellement l'indépendance. Sinon, si nous n'arrivons pas à intérioriser cette indépendance et cette souveraineté, nous risquerons un jour de nous retrouver dans un état où nous ne serons plus maîtres de nous-mêmes.
Junior Kabwika, quand vous dites que ce pays, comme d'autres, ne produit rien, il y a des matières premières, il y a du coltan, il y a du cuivre, il y a de l'uranium, il y a du cobalt, il y a plein de choses. Rien, ça veut dire quoi? C'est le fait que ce ne sont pas produits au même titre que les automobiles, les avions, les ordinateurs sont produits par la Chine, les États-Unis, etc. Est-ce que c'est le fait de produire des matières premières, comme hier on produisait l'huile de palme, l'ivoire, etc. Est-ce que c'est ça l'une des faiblesses de ce pays après l'indépendance?
Avant de continuer, je vais faire une anecdote. Il se raconte souvent, Dieu a donné à ces pays. Et en même temps, on lui a reproché, pourquoi avez-vous donné tout à ces pays? Il a dit, attendez, je vais vous surprendre. Vous verrez les types d'hommes que je vais mettre. Parce que le développement n'est qu'un mot, mais il doit être vécu. Il doit vivre au travers des individus. Parler des ressources minières et tout. On dit bien que le Congo est un scandale géologique. Oui, il est scandale, mais la richesse ne se parle pas. La richesse, c'est au travers des moyens de la transformation. Et ce sont ces différents moyens de transformation qui nous manquent. Vous vous rappelez très bien que ce pays a toujours été victime de toutes ces richesses. Rappelez-vous, avec le caoutchouc rouge, nous étions, la pneumatique, c'est le caoutchouc. Et le Congo en a subi au travers de cet important moyen de la production pour la pneumatique. La bombe atomique, le Congo a été victime de son uranium. Aujourd'hui, en même temps, avec le coltan et tout, le Congo subit aussi. Et demain, ne soyez pas surpris à ce que le Congo soit encore victime de son eau, parce que nous avons un grand potentiel. Donc, à ce niveau, il faudra à ce que nous arrivions à mettre en place un système, comme je l'ai dit, intelligent, qui doit être consciente pour prendre à bras le corps le problème qui se pose dans les pays.
Je suis avec Junior Kabwika, un membre de cette jeune garde de chercheurs en histoire, en sciences sociales du continent africain, qui est en train de reformuler les questions et de proposer un arrangement différent des faits que nous connaissons pour regarder vers l'avenir. Donc vous nous avez montré la donne économique, les ressources de ce pays, vous avez évoqué aussi, alors comment appeler ça, la passivité, le manque d'imagination ou la complicité de l'intelligentsia. Mais dans votre livre, vous insistez aussi sur un autre trait caractéristique de cette histoire longue, c'est ce qu'on pourrait appeler la volonté et la capacité de résistance, disons, des peuples du Congo. Pas les élites, mais le peuple, monsieur et madame, tout le monde, hein, si on peut parler comme ça.
L'indépendance que nous avons acquise, bien entendu, est une conjonction d'efforts, et sur le plan externe, voire sur le plan interne. Sur le plan interne, c'est au regard des forces résistantes. On dit toujours, l'indépendance aujourd'hui comme la démocratie ne se donne pas sur une assiette en porcelaine. Elle doit être méritée comme la vie au travers des différentes luttes, car la vie est un combat. Mais maintenant, au regard de tout ce qui est par rapport à la situation du pays, il se constate à ce que l'état d'hier continue à nous hanter jusqu'à aujourd'hui, quand bien même nous avons développé de grands diplômes. Est-ce que pouvons-nous dire que nous avons des intellectuels? Ça, c'est encore une autre question à développer. C'est pourquoi toute la mobilisation doit être faite, et du camp dirigé, et du camp dirigeant, afin que nous soyons un par rapport au devenir du Congo. Maintenant, qu'est-ce qui se constate? Dans un pays à forte pauvreté, à forte misère, on érige des grandes richesses taillées sur mesure aux dépens d'une certaine classe. Et c'est ce qui fait en même temps un découragement du peuple. C'est pourquoi moi j'ai dit, ce pays n'a été sauvé que par des petits peuples. Lorsque en 2003, je me rappelle très bien, Moutebousi avait fait tomber la ville de Bukavu. En un instant, sans pour autant qu'il y ait instigation politicienne ou politique de part et d'autre, la population lambda s'était soulevée par rapport à la résistance, par rapport à ce qui est commun, c'est que la nation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Pour des besoins politiciens et des bons appétits politiques, les politiciens, soit des élites, en même temps entretiennent un climat malsain pour des visées électoralistes. Est-ce qu'aujourd'hui, à comparer avec les périodes passées, sommes-nous dans une nation ou nous sommes dans une nation en train de s'effacer? Et en même temps, cet effacement, ce n'est pas par rapport au profit, ce n'est pas au fait bien entretenu par le petit peuple, mais par rapport à ces grands peuples, soit-il. Imaginez-vous, monsieur le professeur, vous avez par exemple un ministre qui est bien gardé par un policier qui à peine touche 100 dollars. Mais en même temps, ce policier accompagne son patron avec des milliers de dollars, mais il reste loyal. D'où nous disons ceci, et que cette indépendance est si et seulement si nous continuons à bien attendre à ce que le point de pouce, quand même cela est évident, puisse venir du plan supérieur, nous allons assister à ce que moi j'appelle le fassement total du Congo. Parce que la capacité aujourd'hui d'une république, c'est de résister face à toutes les attaques qui puissent venir ailleurs. Le politologue kenyan Alu Mazuri a développé une théorie de la colonisation par de peuples autochtones. Si hier, la colonisation se faisait à partir de l'étranger, par exemple pour le cas du Congo, la Belgique, à plus de 8000 km, vient s'imposer sur le Congo. Aujourd'hui, avec le développement des choses, la passivité d'un peuple, on va utiliser un proche voisin pour le dominer et l'effacer. Ne soyez pas étonné que demain, le Rwanda à côté, qui est petit, gouvernable, surpeuplé, par rapport à un Congo voisin qui est grand et sous-peuplé, voire ingouvernable, risque d'annexer ces pays par rapport à notre passivité. C'est pourquoi, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, l'interpellation est générale. Et ceux qui dirigent, les élites soient-elles, et en même temps ceux qui subissent ces dictats de ces grands peuples. Parce que, pour paraphraser Émile Bongeli, dans son ouvrage intitulé « L'université contre le développement », c'est là où, en même temps, cette problématique dans notre ouvrage trouve aussi son fondement. Nous avons plus produit des médecins, mais voilà, aujourd'hui, nous sommes incapables de nous soigner. Il faut attendre que les médicaments proviennent de l'extérieur pour nous soigner. Nous avons plus produit des juristes, mais le monde des juristes est le monde le plus corrompu. Nous avons plus produit des politologues, nous sommes incapables à penser les systèmes qui nous soient propres. Nous avons produit des historiens qui, malheureusement, nous sommes aujourd'hui incapables de produire des manuels spécifiquement pour notre population. Donc, ici, nous concentrons à ce qui est tous les ingrédients. Bien entendu, il ne faut pas oublier les apports extérieurs, sont mis en place avec la complicité locale pour faire en sorte que ce pays ne puisse pas évoluer.
Merci à vous, Junior Kabuika. Nous aurons l'occasion, évidemment, de revenir vers vous avec cette thèse. Voilà donc comment parle la jeune garde africaine aujourd'hui en Afrique centrale. Nous verrons dans d'autres cas, en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, et peut-être aussi dans les pays étrangers qui commencent de plus en plus à s'intéresser à l'histoire de l'Afrique, en particulier ces pays de l'Extrême-Orient, le Japon, la Chine, la Corée, qui, elles aussi, commencent à produire sur la scène de l'intelligentsia une sorte de jeune garde qui, certainement, va renouveler notre connaissance du passé et peut-être notre manière de penser le futur du continent africain. Ici se termine Mémoire d'un continent, une émission réalisée par Olivier Raoult.
Cette émission vous a été présentée en partenariat.
Annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le thé où tu as begin la vie ici. Tu souffres de Camerounis aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je fasse que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la salité? Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop, aïe, il para de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantous dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouriens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Pabia. J'ai très mal rêvé,
c'est la faute à Pabia.
Ma voiture démarre,
c'est la faute à Pabia.
Mon gars me gnoffe mal,
c'est la faute à Pabia.
C'est la faute à Pabia,
c'est la faute à Pabia.
Ce n'est plus la sorcellerie,
c'est la faute à Pabia.
C'est la sauce et le riz,
c'est la faute à
je me réveille de bonne humeur.
C'est la faute à Fabia.
C'est la faute à Fabia.
C'est la faute à Fabia.
Tente un peu de dire que tu vas épouser une bamileke. Tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi. Tu es seulement toi. What's up, nous venons de la fille te faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun. Pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de LLL. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits Mobutu. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un brougougou. Nerveux dès le matin, périphère. Ne me parle pas de balayer mon quad popole, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir,
c'est la faute à Fabia.
Tu ne fais que mentir,
c'est la faute à Fabia.
Jusqu'à quand on va dire,
c'est la faute à Fabia.
C'est la faute à Fabia.
C'est la faute à Fabia.
Tu abandonnes tes moulins,
c'est la faute à Fabia.
Tu t'enjailles avec les gars,
c'est la faute à Fabia.
Tu fais ça et tu dis quoi,
c'est la faute à Fabia.
C'est la faute à Fabia.
C'est la faute à Fabia.
Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forget Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lancha, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur,
c'est la faute à Fabia.
Tu chibas tes amis sûrs,
c'est la faute à Fabia.
Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant,
c'est la faute à Fabia.
Appelez le pasteur.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Poco Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Écoutez est la plus grande des qualités. Écoutez les enfants, les parents, les professeurs et les coéquipiers. Les discours fous des pionniers. Écoutez votre instinct et croyez en vos idées. Écoutez votre cœur et les visions encore inexprimées. Écoutez le présent et les échos du futur. Ne pas seulement entendre, écoutez. Parce que c'est seulement quand nous écoutons que nous pouvons comprendre. Que nous pouvons trouver des solutions intelligentes, que nous pouvons progresser. C'est seulement en écoutant ce qui compte que nous pouvons créer des solutions qui comptent elles aussi. c'est de là que tout provient. Ce n'est pas seulement en nous, c'est notre nom.
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Ces musiques du monde, une heure à farfouiller sur la toile, dans la toile, sous la toile, avec Sofian Fennen pour son livre Boulevard du Stream, ce qui a changé dans l'industrie du disque depuis l'apparition de l'Internet, ça c'est dans une demi-heure. Tout de suite, une petite sélection de 6 titres qui pourraient faire un petit peu de plaisir à vos oreilles. Premier de cordée, Cheun Kuti. Bonsoir.
People, now you ready to society and expose the truth. Make the black light shine. Make the expose of the evil hiding in the darkness. Make the black light shine into our hearts and into our soul.
Make the black light shine.
On the path, let it guide the footsteps.
Make the black light shine.
Go to society and expose the truth. Yeah.
Fela Son is a good boy. Black Time, c'est le nouvel album de Shaun Kuti qui s'est offert les services du guitariste Carlos Santana sur le titre Black Time, ce que vous venez d'écouter. L'artiste nigérian sera sur scène à Paris le 7 mars au Bataclan en compagnie du groupe congolais Jupiter et Okwes qui a fait sensation au dernier Globe Fest à New York. C'est un gros raout musical annuel et Jupiter, visiblement, s'est fait remarquer. Notez que le premier clip de Jupiter en 360 degrés est actuellement disponible sur la page Facebook de l'émission Musique du Monde et sur les autres pages de la chaîne RFI, un clip réalisé par RFI Labo au musée du Quai Branly. Alors Rat Kilo est un groupe français qui s'est forgé une réputation de musicien spécialisé dans la musique éthiopienne. Le nouveau projet Visions of Selam embarque la magnifique voix de Mamani Keita et celle du rappeur américain Mike Ladd. c'est le titre du morceau de Nakane. Nakane vient d'Afrique du Sud. Il commence à faire parler de lui en Occident. Il a été repéré l'an dernier au Sakifo Ali de La Réunion, c'était en juin, et puis au Transmusical de Rennes en France en décembre. Nakane est également écrivain, comédien. Vous l'avez peut-être vu dans le film Les Initiés de John Trengrove, où il joue le rôle d'un jeune ouvrier homosexuel. En février, Mélissa Lavaux sortira son nouvel album Radio Siwell avec un répertoire en créole haïtien qui couvre la période 1915-1934. C'est quand les Américains occupaient l'île. Elle sera en concert le 8 mars aux Étoiles à Paris dans le cadre du festival Les Femmes s'en mêlent. Elle passera par le Grand Studio pour une session live chez nous le 27 janvier.
Ma belle,
C'était le reggae de l'artiste anglaise Holly Cook. Le nouvel album s'appelle Vessel of Love, le vaisseau de l'amour. Youhou. C'est une enfant de la balle, c'est la filleule de Boy George. La maman Jenny Mathias était la chanteuse des Belle Stars. Le papa Paul Cook a été le batteur des légendaires Sex Pistols. Mais oui, les Sex Pistols, ceux qui nous ont littéralement explosé les tympans à la fin des années 70. Punk, que ça s'appelait. Merci pour les acouphènes. Heureusement, la rejetonne est plus chaloupée. Concert parisien le 21 février au Pan Piper. Et le prochain, c'est Jérémy Labelle.
Gabriel, Gabriel, bef la loupe la donne zétantelle, bef la loupe la donne zétantelle. Gabriel, Gabriel, grand kebetel creux padelle, bon Dieu, ange, oiseau dans le ciel. Gabriel, Gabriel, mon cœur jodi la lémane, d'un kabala moi tu sais. Gabriel, Gabriel, bef la loupe la jeune c'est en terre. La loupe la donne, c'est un terre. Gabriel, Gabriel, mon cœur jodi la le malèle, d'un kabala malè tout seul. Gabriel, Gabriel, en kebetel kolou padèle, bon Dieu, ange, oiseau dans le ciel.
C'était notre dernier client, Jérémy Labelle, un réunionnais et un breton, il ne faut léser personne. Cet extrait de son tout nouvel album, Universile, et ici, c'était avec la voix sublime de Jean-Marie Barré, qui est également originaire de Lille, pour le morceau Coup de zèle. Labelle sera le 3 février notre invité dans la session live avec la harpiste Isabelle Olivier. Ça va être magnifique. Vous pouvez réécouter évidemment cette émission sur le musique.rfi.fr et surtout avoir toutes les coordonnées des artistes qui viennent de se produire, enfin de passer dans cette première demi-heure, sur la page d'accueil de l'émission Musique du Monde. Et on se retrouve, nous, dans 3 minutes après le flash de RFI pour la suite de nos petites affaires. Merci.
fait que par la mer nous volons délégués. Yau tanga kamul yau, reu par la mer nous volons délégués.
CUT 89,5 FM, le son de votre ville. Tout un monde à découvrir. Mois de mars 2018, c'est le mois de la francophonie. C'est aussi le renouvellement de votre partenariat avec la radio. Soyez des nôtres, inscrivez-vous immédiatement à popourri@cut.fm. CUT 89,5 FM, le son de votre ville. Tout un monde à découvrir. CUT FM, Popourri Show, toute la diversité du monde sur votre fréquence.
Écoutez la planète chanter.
Cette chanson, les feuilles mortes, me rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voile.
Adra bella cosa, adra bella cosa, dingue-da.
Écoutez la planète chanter.
Tu dors encore, hein? Tu sais pas que la couleur tropicale a commencé déjà. Et toi, tu suis quoi?
Couleur tropicale, Claudie.
Si la lune se miracle,
et la presse, tu restes là en santé. Toi-même, tu? Toi-même, tu? C'est comme ça que je vous aime.
Couleur tropicale avec Claudie Sian.
Et toujours avec la team, et vous le savez, le vendredi en deuxième partie, tout le monde veut danser. Le monde entier veut danser et veut danser sur les sons afro du moment. Vous connaissez le principe, deux DJ vont se succéder aux platines. Dans un instant, nous serons en terre togolaise et tout de suite, nous sommes au Mali. DJ Madès depuis Kai. Hey! Allez tout le monde sur la piste, c'est la plus grande discothèque d'Afrique, estampillée couleur tropicale sur la radio mondiale, c'est original, c'est légal. Hey, phénoménal. Écoute ça. DJ Mades. C'est lui qui contrôle. Le monde va bouger.
Yeah. Master DJ on the mix.
La pression est déjà au maximum dans la plus grande discothèque d'Afrique. C'était DJ Madès en direct de Kai, en direct du Mali. Voici le second DJ dans la plus grande discothèque d'Afrique. Vous quittez le bar, vous revenez sur la piste. Voici Félicio. Félicio. Lomé. Lomé. Togo. Écoute ta radio. C'est la plus grande discothèque d'Afrique. Allez, tout le monde sur la piste. On y va.
C'est pas ça.
La planète entière est au son des musiques afro d'Afrique et de ses diasporas. Code ça et danse sur ça.
Couleur tropicale avec le disque.
Comme ça.
Et n'y a ni le pidio loup pour les cas pour l'on a fait boulot. 228 à bas, même coup d'arica. Les mimbo yo y bobobé à glé de mena ma coup gold ball au doigt en gueule ou assia. Aïe front bébé, aïe dit mimbo quoi, aïe sort de vie très l'aider. Tiens clip pour fuir, au bravé forme spaghetti. Comme si mes tonnes me restent spaghetti à dada. Et de la quoi non, à quoi t'as le type laja. Non, bravé forme pour cas pour la battu pas d'un. Comme si n'y a des cibras terribles et cramon ou. Et ma co à donner. Aché à trotche, à quoi que lolo. Tri, l'expérience, mazé, quoi. Bien ronde, t'es un ami à Saint-Tissot, t'as pas à ton bon ami à terre à l'antinama. Américo avait un des cagés au dogo. On s'est toi, bon bois, t'es cloné. Eché, eché, maman, eché. Et ton amadi. Non, lolo, et ton amadi. Et ton amadi, bobo, et ton amadi. Et ton amadi, bobo, et ton amadi. Non, gourou, et ton amadi. Non, lolo, et ton amadi.
Le rap est sauce, la terre est sauce. Les mafios, que tu rap, que tu suives, mais que tu joues à la sauce. Même scénario, il vit tout le monde sous terre. Pas le microphone, c'est le microphone, cher. Insulte pour moi, le underground style. Fuck off your motherfucker. Car le rap ne m'intéresse pas du tout. Et ça va, je parle à connaissance de cause. Je suis un featuring, un featuring. Voilà, avec toutes mes poussies. Il vient du ghetto, ben, est-ce qu'il est pour le hardcore? Yo, toi, ma main, allez, j'ai.
Came from Maytag, rock a whistle on the brown. Then I get.
feel like this, I can't be around you. I'm too little to turn down a notch. Cause I can name some things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time I hit with ya. When I'm walking, wow, wow, wow. Wow, 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 wow.
Le ciel pour le stage. Un jour, mais j'y crois. Je ne vis que pour. n'a pas de genre, j'en ai fini le cadre.
DJ Felicio.
C'est fini.